au cœur de la stratégie de l'entreprise.
L'entreprise a toujours eu à cœur d'investir sur ce sujet. Elle est notée numéro un dans son secteur par Vigéo sur la responsabilité sociale et le jeu responsable. Notre modèle n'est durable que s'il est responsable.
Un modèle responsable qui s'appuie en revanche sur peu de données chiffrées. Il n'existe en effet en France aucune étude récente sur l'addiction aux jeux d'argent et de hasard.
Une précision signée Mathilde Pires. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 18h10 ici à Paris. Prochain point sur l'actualité sur la Radio du Monde dans 20 minutes.
Radio G. www.radio-g.fr.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur Radio G. Dans la quotidienne des actualités culturelles et locales ce soir. Alors le jeudi, une semaine sur deux, c'est le jour où l'on retrouve Benoît et sa chronique science, nature et environnement. Rendez-vous en deuxième partie d'émission pour des idées de sortie et découvrir quelques nouvelles de l'actualité de la recherche. Avant cela, je vous propose de parler à nouveau d'opéra avec Angénante Opéra. Mardi 12 novembre, vous découvrirez le concert « C'est quoi cet accent ?». C'est un concert dans le cadre du cycle « Ça va mieux en le chantant ». L'occasion parfaite de découvrir le cœur d'Angénante Opéra, le théâtre et même de chanter au cœur du Grand Théâtre d'Angers. Voici pour le programme de cette émission. Comme toute cette semaine, c'est Annelie derrière le micro. Et avant de retrouver nos deux sujets du soir, j'ai envie d'ouvrir cette émission avec de la musique. Et plus particulièrement avec un groupe local, Wild Fox. Ils sont jeunes, ils sont quatre et ils font surtout du rock'n'roll. Ils viennent d'Angers et de Saumur. Ça fait 3 ans que le projet est formalisé. Ils ont produit eux-mêmes 2 EP, fait des milliers de kilomètres pour faire plus de 100 lives. Et aujourd'hui, Wild Fox a besoin de votre soutien pour réaliser leur futur EP. Et cette suite, elle s'écrira, si vous le voulez bien, grâce à un financement collectif et participatif. Car comme ils le disent eux-mêmes, un peu de tout le monde, c'est beaucoup mieux que beaucoup d'une seule personne. Je vous laisse méditer sur cette phrase et je vous invite à aller les soutenir. Ça se passe sur la plateforme Ulule, ulule.com/wild-fox. C'est super facile à trouver et il vous reste 11 jours pour participer et être les producteurs de ce futur EP et de tous les clips à venir. Pour terminer de vous convaincre, on va écouter la musique de Wild Fox avec African Running. C'était Wild Fox, et si ça vous a plu, rendez-vous sur Ulule pour soutenir la musique locale. Nous allons maintenant parler d'opéra. Pour des raisons techniques, je n'avais pas pu vous proposer en direct dans cette émission de retrouver Alain Surance, le directeur de Angers-Nantes Opéra, qui nous parlait de Ça va mieux en le chantant, et plus particulièrement du prochain concert qui aura lieu le 12 novembre, c'est mardi prochain, et qui s'intitule C'est quoi cet accent ? On le retrouve maintenant. Et maintenant, on va parler un petit peu de la reprise du cycle « Ça va mieux en le chantant ». Alors c'est un cycle, là, l'idée c'est de mettre en avant la voix, ses particularités, ses facettes, et de faire chanter aussi le public. J'ai dit plein de choses dans le désordre.
Oui, oui, c'est ça l'idée, c'est de rappeler aux gens que l'opéra, qu'ils admirent, qu'ils connaissent plus ou moins, bien sûr c'est du grand art, mais ça nous ramène tout de même à une pratique qui est la nôtre. On a tous une voix, on sait tous chanter, et on peut faire quelque chose avec sa voix, et il ne faut pas s'en priver. Donc nous proposons ces concerts qui sont aussi des concerts pour faire venir les familles, puisqu'ils sont à 4 euros, donc on peut venir avec ses 2 ou 3 ou 4 enfants, ou plus encore. Mmh. C'est pas cher, et ça permet de faire découvrir aux enfants l'opéra, de le faire redécouvrir aux adultes aussi, et puis de passer un moment sur ce que c'est que cette culture commune vocale qu'on a, qui se limite pas à ce que nous déverse les robinets des radios généralistes. Il y a une diversité extraordinaire dans le traitement de la voix dans le monde entier. L'opéra est une des manières les plus formidables de faire travailler la voix, puisque dans l'aigu, dans le grave, dans le rapide, dans la lenteur, et puis dans la une certaine virtuosité, la voix à l'opéra est vraiment traitée comme nulle part ailleurs. Et ça, voilà, on veut en faire profiter le public à travers une thématique qui permet d'aller en travers des genres aussi, de passer de l'opéra à la comédie musicale, voire au rock, voire au rap, etc. Il n'y a pas de frontières, en fait, dès lors qu'on se met à réfléchir à comment utiliser sa voix.
Mmh. La prochaine date à Angers, ce sera le 12 novembre, le mardi. Donc il y a aussi deux représentations à chaque fois, une à 18h, une à 20h. Et la thématique que vous avez choisie pour débuter la saison, c'est quoi cet accent ? Parce qu'on a tous des accents, même si on ne le sait pas.
Oui, on a tous des accents d'abord, même si on ne le sait pas. Et puis, quand il s'agit de chanter de l'opéra, il faut avoir intégré un certain nombre d'accents, parce qu'il y a des langues qui sont des langues un peu obligatoires. L'opéra, c'est vrai que l'italien, c'est la langue majoritaire. Je dirais que presque 60% des opéras du répertoire mondial sont des opéras en italien, entre Verdi, Puccini, Les Noces de Figaro de Mozart, etc. etc. C'est la langue de laquelle est parti l'opéra, même si après il y a eu des opéras français, anglais, allemand, scandinave, espagnol, etc. Mais tout de même, pour l'essentiel, on est dans l'italien. Et la première mission de nos artistes des chœurs, c'est de chanter l'italien avec un accent italien parfait, et surtout pas avec l'accent français. Mmh. À l'inverse, dans certaines pièces, qui sont pas forcément des pièces d'opéra, on peut être amené à utiliser des accents de manière assez appuyée, donc il nous faut intégrer dans notre langue française. Par exemple, chanter avec l'accent québécois, c'est pour nous français un peu difficile. À l'inverse, nos amis québécois, quand ils doivent chanter un opéra français, il faut qu'ils fassent très attention à leur accent. Mmh. De la même manière, l'accent dont on a besoin pour chanter un opéra anglais de Benjamin Britten, par exemple, c'est un accent bien particulier, c'est un accent anglais. En revanche, pour la comédie musicale américaine, vous devez savoir chanter l'américain. Donc vous voyez, toute la question de l'opéra et du chant en général tourne autour de cette question des langues et des accents. Nous avons d'ailleurs, nous, dans le chœur d'Angers-Nantes Opéra, c'est très amusant, des nationalités diverses. Mmh. Nous avons des Mexicains, nous avons une Britannique, nous avons des Coréens. Et donc c'est un petit peu tour de Babel déjà à l'intérieur même de notre formation chorale, et ce d'autant que il y a aussi donc des accents régionaux, puisque nous avons des Bretons, nous avons des gens qui viennent du sud, Nous avons des gens qui viennent du Nord. Bref, c'est un vrai, c'est une vraie tour de Babel et dans laquelle il faut essayer de mettre un petit peu d'ordre avec nos répertoires.
Je trouve ça intéressant comme axe parce que moi, personnellement, je n'avais jamais pensé pour les chanteurs, les chanteuses, au travail de l'accent. Enfin, spontanément, je ne me serais jamais posé cette question. C'est quand même fou.
C'est amusant de voir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ne savent pas parler l'anglais, mais qui savent le chanter très bien chez nous en France. C'est toujours un vrai paradoxe, c'est-à-dire que le bon accent pour prononcer l'anglais, ils ne l'auront pas lorsqu'ils parlent, et ils l'auront lorsqu'ils chantent. Ce qui est un paradoxe très 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 amusant pour moi, évidemment. Donc cette question des accents, c'est une question en fait qu'on traite au quotidien, hein, les uns et les autres.
On peut chanter en yaourt. Oui. Est-ce que vous connaissez la glottophobie, Alain ?
La glottophobie, non, j'ai oublié ce que c'était.
C'est le petit nom donné à la discrimination qui peut exister liée aux accents. Parce que oui, des fois, on se fait une image ou carrément une mauvaise image de quelqu'un juste pour son accent. Voilà.
Mais oui, ça existe, ça. Ça existe d'ailleurs. Moi, j'étais encore dans la génération des gens un peu brimés parce que on les reprenait sans cesse s'ils avaient une pointe d'accent. Moi, je suis du Nord, alors ça s'entend pas. Mais quand je suis arrivé à Paris, tout le monde me disait « Ah, dis donc, ça s'entend que tu es du Nord. » Parce que je parlais un peu comme ça.
Oui. Et c'était pas valorisé.
Ah, c'était vraiment pas valorisé. C'était vraiment très discriminant d'avoir l'accent du Nord. Alors que l'accent marseillais a toujours été présenté comme une chose merveilleuse. Tout le monde s'extasie devant l'accent marseillais. L'accent du Nord, je sais pas si vous en souvenez, mais c'était tout de même considéré comme le comble de la vulgarité. Et il a fallu, effectivement, ce film Bienvenue chez les Ch'tis pour changer l'image de cet accent.
Alors dans cette programmation, c'est quoi cet accent ? Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir avec le chœur de Angers-Nantes Opéra le 12 novembre ?
Alors on va entendre des chœurs dans différentes langues, évidemment. Donc on va entendre des chœurs de Zarzuela, vous savez, cette opérette espagnole typique qui est formidable. On va entendre un chœur en russe, parce que le russe est une langue très particulière et dont la prononciation change le timbre de nos voix. On va entendre de l'italien, pour entendre l'italien évidemment dans toute sa perfection. Et puis après, nos artistes du chœur vont chacun illustrer leur accent ou leur langue. Donc on va entendre du breton, du coréen, évidemment de l'anglais américain. Voilà, ça va être un vrai kaléidoscope de langues.
Et vous serez aussi sur scène d'ailleurs, si je ne me trompe pas.
Oui, parce que j'ai décidé de me produire dans le petit quinquin qui est l'air traditionnel du Nord, la canchon d'Armoire, comme on l'appelle, c'est-à-dire la berceuse. Et c'est depuis que je suis tout petit, c'est vraiment le tube que j'ai chanté toujours dans les mariages, dans les fêtes de famille, parce que j'étais le petit gars du Nord dans ma famille qui était plutôt de l'Ouest. Et donc on s'amusait énormément à m'écouter chanter le petit quinquin, donc je vais le refaire encore une fois. Mais le concert sera présenté, et ça c'est une nouveauté de la saison, non pas par moi, mais par Marc Scofoni, qui est notre artiste en résidence, qui est un formidable baryton. Alors lui, il est d'origine corse, donc il va nous chanter du corse, bien sûr, à cette occasion, et c'est lui qui présentera le concert Ça va mieux en le chantant de ce mois de novembre, et il en présentera d'autres ensuite en janvier, en mars, en avril.
Très bien, merci beaucoup Alain. Je redonne les dates donc pour C'est quoi cet accent ? Ce sera le 12 novembre à Angers, à 18h et à 20h. Moi je ne peux que vous inviter à aller découvrir, à être curieux et curieuse. On se retrouve le mois prochain pour les prochaines dates de Angers-Nantes Opéra, pour la prochaine programmation. Et vous êtes venu avec un dernier morceau à écouter. Alors lequel est-ce ? On va l'entendre dans C'est quoi cet accent ?
Oui, on va l'entendre. Ce sera d'ailleurs le chœur d'ouverture, puisque ce sera un chœur en italien. C'est un chœur de Nabucco, de Verdi, donc voilà l'italien classique de l'opéra, avec une particularité, c'est que ce n'est pas la célèbre prière que tout le monde connaît, Va Pensiero, mais c'est l'air qui est au tout début de l'ouvrage et qui montre les Hébreux, pas encore en captivité, mais craignant bientôt la captivité, puisque les Assyriens sont à la porte de Jérusalem et eux sont dans le grand temple de Jérusalem. C'est donc le premier chœur, le chœur initial de Nabucco.
Je suis déjà en train d'imaginer toute une suite à l'histoire. Merci beaucoup Alain.
Merci.
À l'écoute de Radio Classique, mais bien de Radio G et de l'oreille curieuse. Ça m'intimide complètement de reprendre la parole après une telle instrumentale. On va retrouver maintenant Benoît et sa chronique science, nature et environnement. Salut Benoît.
Salut Annie, bonsoir à tous.
Bon, quelles sont les nouvelles de la chronique Science Nature Environnement?
Les nouvelles, elles sont bonnes. Hein.
Ah, c'est bien.
Donc c'est bien. Quelques petites infos d'agenda pour commencer. À savoir des choses qui vont notamment se dérouler ce week-end. Une première activité possible et intéressante le 9 novembre, donc samedi. Donc il s'agit d'un atelier permaculture. Donc c'est de 14h30 à 16h30. Et donc ça se passe au jardin de la Alloprix. Donc il y a un resto troc là-bas. C'est allée de la Alloprix à Angers.
D'accord.
C'est un atelier pour les jardiniers curieux qui ont des envies de jardiner autrement. Donc c'est 3 euros par personne et 1,50 € pour les enfants. Voilà, donc c'est les RESA, c'est à l'office de tourisme.
Mm-hmm.
Okay. Au 02 41 23 5000.
J'ai cru que t'attendais que je complète le numéro, mais je le connais pas par cœur.
Donc voilà, c'est facile. Le lendemain, le dimanche,
oui.
Si la jardinerie vous plaît moins ou si vous voulez faire les deux, il y a une rando nature organisée en bord de Loire à Saint-Rémy-la-Varenne. Mm-hmm. Voilà, ça se passe tout l'après-midi de dimanche. Donc c'est rendez-vous à 13h30 à Saint-Rémy-la-Varenne. Il y a à l'aire de stationnement, donc place de l'église. Voilà, c'est de la rando, on apprend avec un guide, j'ai envie de dire une guide même, qui s'appelle Monique Adavar, donc le nom des plantes et surtout leur utilisation pour leurs vertus, soit thérapeutiques, utilisation culinaire, ou, voire même plantinctoriale. Donc vraiment une balade botanique. Voilà, à Saint-Rémy-la-Varenne. Alors il y a un covoiturage possible au départ d'Angers.
Ouais.
Donc tout ça, même chose, vous allez sur le site de l'office du tourisme où vous les appelez, au numéro que j'ai donné tout à l'heure.
Qui est le 02 41 23 5000.
Bien, très bien. Tu fais marcher ta mémoire à court terme, parfait. Et donc voilà, ça a une belle petite activité aussi en perspective. Alors en espérant qu'il fasse beau dimanche. En ce moment, le temps, c'est pas trop ça.
Oui, c'est la surprise, mais ouais. Ça a l'air bien.
Ouais, bah, j'espère. Quelques actus maintenant ?
Bah oui, la recherche, la science.
Bah ouais, un peu de tout ça. Alors là, une première info que j'ai dégotée, là, qui est assez intéressante. Quand on parle de l'âge d'or des reptiles, que les reptiles régnaient sur Terre, etc., c'était plutôt il y a très longtemps, hein, il y a plus de 60 millions d'années,
ouais.
Notamment pendant toute l'ère secondaire. Et oui, il y avait des dinosaures sur Terre, il y a des grands reptiles dans la mer, dans les océans et tout ça.
Ouais.
Des études assez récentes de ces 15 dernières années ont montré qu'en fait, il restait un royaume sur Terre où les reptiles ont encore été longtemps les maîtres incontestés. Et ce territoire, c'est l'Australie.
Ah ouais.
Alors oui, alors des récentes découvertes ont mis en avant que à cause de l'homme en partie, notamment ça, parce que ça s'est accéléré à cause de lui, et bien tout un écosystème très particulier qui était dominé par des reptiles carnivores donc en Australie type, a disparu.
Ouais, type alligator, crocodile,
voilà,
choses comme ça.
Alligator, crocodile, varan, ouais. Notamment des varans beaucoup plus gros que, par exemple, le varan de Komodo, qui
est déjà imposant,
qui est déjà sans doute c'est le plus gros varan du monde. Donc évidemment, c'est une découverte assez intéressante. Alors comment ça s'est passé ? Eh bien, ils ont en étudiant toutes les publications. Notamment de paléontologie de ces dernières années, on a repéré une extraordinaire diversité de reptiles jusqu'à l'époque glaciaire et même un peu plus récemment. Donc avec des, comme je le disais, des serpents très grands, des dragons de Komodo beaucoup plus gros que ceux d'aujourd'hui, des crocodiles terrestres qui avaient de grandes pattes, enfin bref. Donc en tout cas, le sommet des chaînes alimentaires était occupé par ces animaux. Et donc, l'Australie, ce continent qui a été dominé par des prédateurs reptiliens pendant une grande partie des 25 derniers millions d'années.
Oh, ce qui est pas
donc
mal,
jusqu'à
même.
Il y a au moins 100 000 ans. Quoi.
Ouais.
Alors, bon, il n'y a pas que les dinosaures qui ont régné sur Terre, et d'ailleurs ils ne sont plus là, mais ça s'est poursuivi sur le continent australien. Alors, c'est pas l'histoire qu'on connaissait. Hein. Bon, il s'avère que ça s'est très vite dégradé, puisque certains prédateurs introduits ont causé de très grands dégâts. Alors, les changements aussi climatiques hein, ont aussi, au niveau du Quaternaire, ont perturbé un peu le système. Mais surtout, l'arrivée de l'homme avec quelques prédateurs, notamment des petits prédateurs, ont contribué à éradiquer la faune australienne qui était particulière, notamment au niveau des mammifères.
Ouais. Et cette arrivée de l'homme, on sait à quel...
Oui, c'était vers... il y a 4000 ans.
Ouais.
Donc ça a vraiment empiré, notamment avec l'arrivée du dingo, un chien qui est retourné à l'état sauvage, enfin une sorte de chien sauvage en fait. Hein.
Ouais.
Et lui qui a été qui a éradiqué une bonne partie de la faune mammalienne, donc des mammifères australiens. Puisque après la disparition de ces gros prédateurs, il y avait seulement quelques petits mammifères, dont le diable de Tasmanie, qui est connu un petit peu. Il y en avait un peu plus gros, il s'appelait le tigre de Tasmanie. Le loup marsupial, ou le thylacine aussi, ainsi que le lion marsupial. Donc ces mammifères-là avaient remplacé sur l'Australie les grands prédateurs reptiliens disparus. Mais ils ont été complètement désarmés à l'arrivée des mammifères placentaires venus des autres continents. Et ça a jeté le coup de grâce sur cette faune. Donc en très peu de temps, en fait, la faune particulière, si particulière à l'Australie, a quasiment périclité.
Bon.
Donc c'est une histoire revisitée assez intéressante. Donc dont on peut retenir finalement le fait le plus grave, c'est que dans son histoire très récente, les 200 dernières années, les chats et les renards ont été responsables de la perte d'une trentaine d'espèces et de sous-espèces de mammifères endémiques d'Australie.
Donc qui ne vivaient qu'en Australie.
Donc voilà, ça représente 50% des extinctions de mammifères dans le monde sur les 200 dernières années. Donc c'est assez, assez fou. Donc il faut faire très attention quand on va dans les îles. Alors, le problème se pose à peu près dans toutes les îles du monde.
De ne pas ramener de nouveaux prédateurs.
Exactement. Alors, animaux et plantes, bien entendu.
Oh là 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 là.
Autre actu, alors là, vraiment en marge de la recherche, mais c'est quand même de la culture scientifique. J'ai appris, je ne savais pas, que le Grand Palais à Paris allait être complètement rénové. Il y a un chantier énorme et qui doit le faire réouvrir en 2024, je crois, à l'occasion des JO.
Ok.
Et ils ont décidé de substituer pendant la durée des travaux, de mettre en place des lieux de refuge en fait. Et ça va être le cas pour, alors c'est ce qui nous intéresse dans cette chronique, le Palais de la Découverte, qui est un établissement de culture scientifique vraiment assez ancien maintenant et tout à fait intéressant, très connu pour ses manips, ses ateliers, etc. interactifs.
Pédagogique aussi, ouais.
Oui, exactement. Donc, ce palais va être délocalisé dans un quartier assez proche, dans le 15e arrondissement, près du parc André Citroën. Et le projet est assez remarquable, donc j'en parle pour encourager les auditeurs à éventuellement aller voir ce qui va se passer. Alors, vous avez encore le temps, parce que cette délocalisation sera effective dans un an.
Okay.
Mais ils vont construire une structure modulaire tout en bois de presque 800 mètres carrés pour accueillir alors la partie atelier et médiation, on va dire, du Palais de la Découverte, parce que tout le reste, les expositions et tout, ça ne pourra pas être refait. Le Palais de la Découverte, c'est un lieu tellement immense, ils ne peuvent pas tout... Mais pour entretenir le public et continuer à faire vivre cet
les
établissement,
actions, ouais.
Eh bien, ils vont développer, redéployer, je vais dire... toutes ces activités dans ce bâtiment qui est vraiment en bois, très développement durable, on va dire, hein, puisque la structure est neutre au plan carbone et prévue pour être démontée assez facilement.
Ouais, ça peut être intéressant aussi au niveau de l'architecture.
Complètement, ça va être très joli. C'est sous la forme de plusieurs tipis de couleurs différentes qui seront juxtaposées. Enfin, ouais. J'ai vu les croquis que vous pouvez aller voir sur Internet, ça a l'air assez sympa. Donc, c'est cool. Pas de la découverte avant sa fermeture, allez-y aussi, hein, parce que c'est vraiment un lieu incontournable, ouais, complètement. Et c'est un super endroit, comme tu dis, au niveau architectural. Ouais. Dernière actu, si on a un peu de temps.
On a
encore
le temps.
Super, c'est pour une fois que j'ai le temps. ou avant-dernière, selon. Alors, parce que je me suis trompé dans les pages. Voilà, ça y est, je m'y retrouve. Donc, on va parler environnement cette fois et réchauffement des sols.
Ah, oh là là.
Notamment les sols du Grand Nord.
Ah oui.
Puisque une publication assez importante qui est apparue il y a peu de temps dans Nature Climate Change. Donc il y a 75 co-auteurs, donc c'est vraiment une réunion de beaucoup de matières grises, qui ont montré que en fait le sol de l'Arctique, quand il dégèle, émet beaucoup plus de carbone que toute la végétation de l'Arctique en capte l'été.
Ouais.
Donc c'est un gros problème, parce que le sol qu'on appelait permafrost ou qu'on appelle pergélisol maintenant, ouais, eh bien, dégèle. Donc ça réactive tout un milieu, toute une faune, des bactéries, etc.
C'est quelque chose qui avant ne dégelait jamais.
Non, c'est ça. Le permafrost, ouais, c'était un sol qui était gelé en permanence, ouais, donc entre guillemets un sol mort, et sa réactivation par le dégel en fera un des plus gros émetteurs de carbone. Donc ça va être un peu compliqué à gérer, on n'a pas trop la main là-dessus. Alors le problème, c'est que cette étude prend en compte l'émission de carbone et pas encore et n'a pas pris en compte les émissions de méthane, qui est lui-même un gaz à effet de serre, mais beaucoup plus puissant que le CO2. Et on sait qu'il y a des ressources importantes en méthane dans les sols du Grand Nord.
C'est un peu un angle mort de ce qu'on pouvait voir, mais c'est assez important, j'ai l'impression.
C'est complètement important. Donc, il va être rejeté des centaines de millions de tonnes de dioxyde de carbone par ces sols en cours de dégel. Alors, une autre petite info à la marge qui est intéressante par rapport à ces sols, c'est qu'on pensait qu'ils dégelaient vraiment lentement, progressivement, et on s'est aperçu que non, ils dégèlent par pic, en fait. Il y a des gouffres de dégel par moment où ça va extrêmement vite, et puis sur d'autres périodes plus longues, ça dégèle quasiment pas.
Ouais.
Bon, c'est intéressant, c'est à suivre, parce qu'il y a plein de choses qui se disent sur le Grand Nord. C'est aussi des endroits où on va pouvoir aller cultiver, alors que par ailleurs les sols arables disparaissent, hein, sur la plupart de... C'est vraiment une ressource qui se raréfie, les sols cultivables. Mais là, peut-être qu'il y a une manne aussi pour cultiver et fabriquer des ressources. Bon,
c'est bien, il faut voir du positif.
Il faut essayer.
Bon, bah ouais, c'est un peu bizarre que tout dégèle.
Voilà.
Merci Benoît.
Bah, à bientôt.
Oui, à dans 2 semaines pour la
dans
prochaine
15 jours.
Chronique. Oui.
Le ciel est noir. Mais j'y vois clair la pluie.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour. Et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse obsédante.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long du fleuve, mon âme sœur, du
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme à ton âme. Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Pour clôturer cette oreille curieuse, j'ai choisi ce titre de Compromat. Vous le savez peut-être pas, mais on y entend l'actrice Adèle Haenel en featuring. Et oui. Et pourquoi Compromat? Car ils sont en concert demain soir au Shabada. Et pour rappel, Compromat, c'est Vitalik et Julia Lanoé alias Rebecca Warrior de Sexy Sushi. Tout ça pour vous dire qu'on a entendu quelque chose d'assez calme, mais qu'en fait, ça va plutôt danser demain. Et il y aura même une grande quantité de stroboscope. Bref, rendez-vous au Shabada à partir de 20h30. J'en profite pour faire un mini agenda puisque je vous propose une seule sortie ce week-end. C'est si vous avez envie d'inaugurer les nouveaux locaux de Quasar que vous entendrez tout à l'heure à 20h dans l'émission Quasar on the Air. Mais l'association Quasar, centre LGBT, a déménagé au 15 rue de Jérusalem à Angers. Et ce samedi, à partir de 17h, le nouveau local sera inauguré par les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Alors si vous ne les connaissez pas, vous ne les oublierez jamais. Et si vous les connaissez déjà, vous avez sans doute envie d'y aller. Je ne sais quoi vous dire de plus, à part que ça va vraiment être festif, joyeux, militant et aussi rempli de paillettes et d'amour. Voilà pour l'agenda du week-end. À 19h, ce sera droit devant l'émission de Amnesty International Angers. À 20h, je vous l'ai dit, Quasar on the Air. Et nous, on se retrouve mardi, car lundi, c'est férié. Il n'y aura donc pas d'oreille curieuse. Et nous serons avec le THV mardi. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Radio G. Bonne soirée, à mardi.
Radio G 101.5 FM.